Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Ce podcast vous est présenté par la Banque des Territoires. Pour que la transformation de l'éducation profite à toutes et à tous, la Banque des Territoires agit au service de l'intérêt général pour des territoires plus attractifs et plus inclusifs. La MGEN, acteur majeur de la protection sociale des professionnels de l'éducation et de la formation, MGEN entretient en permanence des liens avec le monde éducatif. C'est pour soutenir les initiatives qui mettent la technologie au service de ces professionnels que MGEN a créé les trophées MGEN EdTech. Et la MAIF, parce que le numérique façonne toujours plus le quotidien de chacun, la MAIF met à la disposition de tous des services pour mieux accompagner l'individu dans la transformation numérique de la société. Je suis Rémi Chal, directeur général d'EdTech France, l'association des entrepreneurs qui mettent la technologie au service de l'éducation et de la formation. Bienvenue dans ce dernier numéro. Ah oui, on est triste, mais en même temps, on va tout donner. Voilà, je regarde mes invités, là, ils sont au tech. Et en plus, c'est le dernier, mais il y a un public très nombreux, en délire. Ça, j'adore. Alors, je reprends. Bienvenue dans ce dernier numéro de la web radio podcast EdTech France au salon Educatech Educatis. Et oui, c'est le 17e et dernier talk de ces trois jours qui furent intenses. On est toujours en direct depuis l'espace territoire apprenant de la Banque des Territoires. On est toujours diffusé en streaming en direct sur edtechfrance.fr et sur les sites web et réseaux sociaux de nos partenaires, la Banque des Territoires, la MGEN et la MAIF. Et pour interagir avec nous, fan de hashtag EdTech, hashtag Educatectis, hashtag Terre Apprenant. Dyslexie, dysphasie, dyspraxie, etc. Les troubles dys, D-Y-S, entravent les apprentissages des enfants. L'accompagnement au sein de l'école n'est pas systématique et souvent long et difficile à mettre en place. La EdTech et les entreprises innovantes s'emparent du sujet avec des applications qui sont adaptées à ces élèves particuliers. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir pour ce dernier talk François Ventron, qui est cofondateur et président de Mila. Bonjour François.
Bonjour.
Donc toi, tu es l'entrepreneur aujourd'hui.
Exactement.
Et bravo, parce que tu es aussi le lauréat, un des lauréats des trophées MGEN.
Tout à fait, avec Mila.
On va en reparler. Vincent Lockman, qui est président d'honneur de la Fédération française des 10. Bonjour Vincent.
Bonjour, je suis vice-président, je suis aussi président d'honneur, ouais, parce que j'en ai été le président pendant des années. Et aujourd'hui, je m'occupe des questions de formation professionnelle.
Super.
Pour la Fédération des 10.
La Fédération des 10, dont on parlera également. Et enfin, et quel honneur d'avoir parmi nous Isabelle Hébert, directrice générale de la MGEN. La MGEN, vous avez vu, il y a des logos partout autour, hein, parce que la MGEN est l'un de nos partenaires, un des partenaires d'EdTech France, un des premiers partenaires d'EdTech France, et puis aussi un des partenaires de ce dispositif. Donc merci beaucoup, Isabelle.
Et on est ravis d'être partenaire et ravis de ce qui s'est passé sur ces 30 derniers jours.
Super. Alors, j'ai le contrat de partenariat pour l'année prochaine. On va le signer comme ça tout de suite. Alors, Isabelle, vous êtes directrice générale de la MGEN, mais au-delà de votre fonction, je crois que le sujet des troubles 10 vous touche particulièrement. Est-ce que vous avez envie d'en parler ?
Ça fait peut-être, mais pourquoi la MGEN ? Alors, c'est vrai qu'on couvre les enseignants, on a aussi des couvertures pour les étudiants et on travaille sur la santé. Donc, on est entre l'éducation et la santé. Mais le sujet des 10, en fait, et ça, c'est un tout petit secret, mais je vais le dire parce que Rémi, vous êtes très très fort pour faire dire des secrets aux gens. La raison pour laquelle c'est particulièrement important pour moi, au-delà d'être DG de la MGEN, c'est quand j'étais petite, et à l'époque, on appelait ça pas vraiment ça des 10. Ouais. J'avais des très 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 gros problèmes d'apprentissage. Mon père, à mon mariage, il expliquait à mon futur mari que quand j'étais en CP, il croyait que j'arriverais jamais à lire et que j'avais un très très gros problème et que j'arriverais pas à être scolarisée. Ouais. Comme beaucoup de 10, même si c'était léger, je confondais les B, les D, les P, les Q. J'arrivais pas. J'avais une orthographe dramatique. J'avais beaucoup de mal à lire. Les médecins ont dit que j'aurais dû être gauchère, qu'on m'avait contrarié pour être droitière, donc je ne savais plus avec quelle main il fallait que j'écrive, etc. Donc pour moi, c'est un sujet qui est personnel, et quand on a croisé dans le cadre des trophées EdTech le sujet de la dyslexie, j'ai vu des outils d'EdTech et je me suis dit, oh, quand j'étais petite, si j'avais eu ça, ça aurait vraiment été plus cool.
Alors d'ailleurs, cette année, les trophées MGEN ont récompensé, entre autres, Mila. L'année dernière,
C'était Mobilis.
Mobilis.
C'est par hasard, donc, s'il y a cette sensibilité-là.
Ben, enfin, alors, je dois dire, je ne truque pas les trophées. Ce n'est pas juste mon opinion en tant que Uber, directrice générale de la MGN qui force à ce que ce soit toujours un sujet sur les 10. C'est, je ne sais pas, c'est naturellement. Alors, ouais. C'est vrai que c'est à la confluence de la santé et de l'éducation. Donc, pour les membres de nos jurys qui sont nos salariés, nos militants, ouais. Des partenaires,
ça a du sens.
Ben, ça a du sens. Donc, c'est pas un hasard, mais c'est pas truqué juste parce que c'est un sujet qui me concerne.
Bon, donc si l'année prochaine, il y a encore une solution pour la 10, on commencera à se poser la question.
Voilà, on pourra.
Alors, Vincent, je me retourne vers le professionnel. C'est quoi les troubles 10 pour ceux qui connaissent?
D'abord, je voudrais rebondir très rapidement sur ce que vient de dire à l'instant Isabelle Hébert. C'est que cette problématique des 10, elle est au cœur du métier des enseignants. C'est-à-dire que c'est précisément la difficulté d'apprentissage qui est impactée par ces troubles qui peuvent devenir un handicap. On est vraiment au cœur du problème du métier d'enseignant. Comment on adapte la pédagogie? Et ce que vous avez dit, Isabelle, c'est que vous auriez bien aimé, vous, avoir un ordinateur, mais peut-être que c'était d'autres façons de vous accompagner. Mais en tout cas, on voit bien qu'on est là, et c'est effectivement pas un hasard que des gens comme la MGEN s'engagent sur ces questions-là, oui. Parce qu'on est au cœur de la problématique du métier de l'enseignant, et que ça concerne 6 à 8% des enfants. Donc ça veut dire qu'il y en a un dans chaque classe, ça veut dire qu'il y en a beaucoup.
6 à 8%, ouais, ça veut dire que dans chaque classe, il y en a plusieurs. Et dans ce...
Voilà, si on regarde les gens qui sont là devant nous, il y en a au moins un ou deux. Ouais. Mais vous voyez, il y en a une autour de notre table. Hein. Alors, on explique rapidement ce que c'est. La dyslexie, on connaît un peu. Ouais. Qu'est-ce que c'est la dyslexie? C'est une difficulté à coder le langage écrit.
D'accord.
Vous entendez des sons, il faut traduire ça avec des lettres.
Ouais.
D'accord. Prenons un exemple. Pourquoi dans Laetitia, le prénom, le premier TI, il se dit TI, et le deuxième TI, il se dit SI. Il y a plein de pièges comme ça, il y a plein d'obstacles dans la langue française qui font que c'est pas automatique entre ce qu'on écrit et le son qu'on entend. Alors, la lexie, c'est une difficulté à coder le langage oral en langage écrit, et puis à décoder le langage écrit en langage oral.
D'accord.
Et ça existe en français. Mais ça existe aussi en italien, qui est plus linéaire comme langue. Mais ça existe aussi en chinois.
D'accord.
C'est-à-dire que même dans les langues à idéogramme, il y a des gens qui ont des difficultés à coder et à décoder le langage écrit.
Ça, la dyslexie, c'est le trouble 10 dont on entend le plus souvent parler.
Voilà, parce que c'est le plus répandu.
Dysphasie, par exemple.
Dysphasie, c'est un trouble du langage oral.
Ouais.
C'est la même chose, mais c'est le codage et le décodage du l'oral. J'ai une idée en tête. J'essaye de la prononcer et les mots se bousculent, j'arrive pas à formuler ma phrase, j'oublie des mots dans ma phrase, j'inverse les syllabes à l'intérieur des lettres. Je vais vous faire un petit rapprochement avec ce qui se passe chez les adultes. Vous avez eu un accident, un problème au cerveau, vous devenez aphasique. C'est la même chose. Vous avez une difficulté, d'un seul coup, après un problème au cerveau, à produire du langage. Le petit préfixe A, il veut dire que c'est acquis.
Oui.
Le petit préfixe 10, il veut dire que c'est inné.
D'accord.
Ok ? Troisième trouble et le dernier, après j'arrête. Dyspraxie, difficulté à coordonner les gestes.
Oui.
Vous avez appris à passer, vous avez passé le permis de conduire. Vous vous souvenez quand vous avez passé la conduite?
Ben oui,
on vous a dit qu'il faut faire attention à vos pieds, à ne pas vous emmêler les pinceaux dans les trois pédales. Vous devez gérer le levier de vitesse à droite, le volant avec la main gauche. Et puis surtout, n'oubliez pas de regarder dans le rétro.
Ouais.
Au moment où vous êtes en train d'apprendre, vous êtes concentré sur tout ça. Et si on vous dit qu'est-ce qu'on mange ce soir, vous êtes incapable de répondre à la question. Parce que vous êtes complètement focalisé sur la coordination des gestes. Et puis petit à petit, cette coordination, elle va s'automatiser. C'est presque magique. Et vous pourrez discuter en conduisant. Il paraît même qu'il y a des gens qui téléphonent en conduisant. C'est incroyable.
C'est pas bien, mais oui.
C'est pas bien. Ben, les dyspraxiques, c'est ça. L'automatisation, elle se fait pas. Et du coup, tous ces gestes qui sont systématisés, automatisés, fluides et faciles pour tous, ça leur prend toujours la même énergie. Et donc, comme quand vous étiez en train d'apprendre à conduire, ils sont complètement concentrés pour coordonner leurs gestes. Et par exemple, tenir un stylo pour écrire entre les lignes, ça leur demande une énergie énorme.
Ouais. Et on comprend de la souffrance que ça peut représenter pour ces enfants, les difficultés d'apprentissage. Alors Vincent, comment est-ce qu'on peut aider ces enfants à besoins éducatifs particuliers?
Alors,
comme on dit.
Il y a plein de façons de les aider.
Ouais.
Le numérique, c'est une façon de les aider. Mais je voudrais tout de suite dire qu'il n'y a pas de miracle. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas le logiciel qui va tout arranger d'un seul coup. Okay, si on prend l'exemple de la dyslexie, en gros, il y a deux grandes familles d'aides, des aides pour la lecture et puis des aides pour l'écriture. Les aides pour l'écriture, ça commence tout simplement par le traitement de texte. On se dit que, quelquefois, on pourrait autoriser le traitement de texte pour certains enfants, dans certains cas, qui n'utilisent pas de traitement de texte, de correcteur d'orthographe. ici, tout le monde utilise un correcteur d'orthographe. Et pourquoi est-ce qu'à l'école, on s'interdit absolument le correcteur d'orthographe ? Alors, je comprends, parce qu'effectivement, il faut comprendre les règles de grammaire. Hein, puis, bon, correcteur d'orthographe, premier outil numérique. Il y a des prédicteurs. Vous savez, quand vous tapez sur votre téléphone portable, vous tapez les premiers mots, les premières lettres du mot, il vous prédit la suite. Oui. Ça peut être une solution. Il y a des outils de dictée. Vous pouvez dicter à votre ordinateur et il va écrire. Mais déjà, un ordinateur, le lambda, il le fait. On peut les utiliser, ces ordis-là. Et puis après, il y a des outils encore plus compliqués, très adaptés à la personne, qui vont, par exemple, reconnaître la voix. Mmh. Et si vous avez une difficulté, parce que vous êtes dysphasique, à prononcer du langage, eh ben, l'outil, il va s'habituer à votre voix.
D'accord.
Et vous allez pouvoir avoir une dictée qui va, et pas trop de fautes dans le texte que vous allez écrire, parce que l'appareil aura appris ce que vous lui aurez indiqué. Puis dans l'autre sens, il y a tous les appareils pour vous aider à lire, pour lire un document. Vous pouvez avoir simplement sur un ordi la possibilité d'agrandir le texte, c'est bête comme tout. Vous avez la possibilité de faire lire le texte par votre ordinateur. Puis vous avez des petits outils, j'aurais pu en amener un, vous avez un stylo, vous le passez sur un texte et vous écoutez, et le stylo, il vous lit ce qui est écrit sur le papier. Ouais. Et c'est très pratique quand on n'a pas un outil, un texte en numérique et qu'on a un texte imprimé en papier.
Et puis parmi ces outils, y a Mila. Alors je me retourne vers son créateur, François. Parlez-nous un peu de Mila. C'est quoi exactement ?
Mila, c'est une plateforme qui est destinée aux familles qui ont des enfants avec des troubles de l'apprentissage, en particulier le cas de la dyslexie.
Ouais.
Pourquoi le cas de la dyslexie ? C'est que ce qu'on développe pour eux, ce sont des jeux musicaux de continuité thérapeutique ou de rééducation. On est en fait à la frontière effectivement entre l'éducation et le thérapeutique. La question, c'est que, donc, comme tu le disais Vincent, il y a cette question dans la lecture, d'encodage, de décodage, et dans la musique, en fait, vous avez exactement le même mécanisme.
Oui.
Vous avez une question de comment vous allez percevoir les sons, comment vous allez surtout avoir une rythmicité, en fait, dans la décomposition des sons, dans la décomposition des phonèmes, et comment vous allez pouvoir les reproduire derrière. Ces apprentissages, ça fait un petit moment, en fait, qu'on commence justement à les connaître. C'est pas nouveau, ça fait 20 ans. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le sujet, notamment Michel Habib du réseau de santé Réseau 10, qui fait un travail extraordinaire depuis des dizaines d'années.
À Marseille.
À Marseille, exactement. Nous, ce qu'on vient faire, c'est justement venir essayer justement d'apporter des outils numériques pour augmenter cet impact, dans le sens où on a aujourd'hui beaucoup de professionnels qui sont formés, qui font un travail incroyable. La grosse question, c'est aussi comment on fait pour toutes ces familles qui n'ont pas accès en fait aux soins. Donc comment on développe des outils qu'on peut mettre directement dans les foyers, qui sont suffisamment autonomes, qui ne sont pas là pour donner une tablette en se disant on va résoudre le problème, mais plutôt donner des clés aux parents, aux familles, pour essayer justement de continuer la rééducation et le suivi à la maison.
D'accord. Et peut-être juste pour ajouter, on l'a dit un tout petit peu au début, mais c'est une triple souffrance. C'est la souffrance de l'enfant qui n'arrive pas à faire ce que tout le monde trouve évident qu'il doit savoir faire. Les parents qui se disent mais qu'est-ce que je vais faire avec mon enfant, il n'arrive pas à s'en sortir. Et l'enseignant qui, dans sa classe, en a un ou deux qui compliquent l'apprentissage des autres. Et donc tous les trois, chacun à leur façon, ils souffrent de cette situation.
Et l'adulte aussi, qu'est-ce qui devient l'enfant 10 qui grandit, Isabelle ?
Alors, pour moi, c'est drôle parce que on pensait que j'arriverais jamais à vraiment lire ou écrire.
Ouais.
Et beaucoup plus tard, un médecin m'a dit, mais en fait, c'est peut-être parce que vous pensez différemment que vous avez fait beaucoup de maths. Et, et parce que quand vous faisiez de la géométrie l'assurance, c'est beaucoup d'accurat, etc., vous ne pensiez pas comme les autres. Et vous n'aviez pas les frontières de c'est un rond, c'est pas un carré, c'est un carré, c'est pas un rond. Or, en topologie, on vous apprend tout mélanger. Donc je pense que, évidemment, je dis ça comme si c'était facile, j'ai plus souffert qu'il y a eu de chance qui était positive. Mais si on le transcrit dans l'entreprise, c'est compliqué parce qu'il y a des handicaps qui se voient, il y a des handicaps qui ne se voient pas du tout. Là, moi, quand dans une structure comme la MGEN, quand j'écris avec des fautes d'orthographe et j'arrive pas à le contrôler, même si j'ai les autocorrecteurs, etc., c'est pas bon en fait. Je considère pas que c'est un handicap. Donc la dyslexie, je suis sûre qu'il y en a la même proportion parmi mes collaborateurs, mais je le vois pas, ils le disent pas, ils l'expriment pas comme un handicap, et je suis sûre que ça leur complique la vie quand ils lisent des rapports, quand ils présentent des choses. Et je pense que ce qu'on voit comme souffrance chez l'enfant, à partir du moment où, entre guillemets, ça se soigne pas, ils le vivent en tant qu'adultes dans le monde du travail. Et comme le monde du travail le reconnaît pas par rapport à beaucoup d'autres handicaps, c'est sans doute encore plus dur.
C'est pour ça que c'est très important que vous soyez là pour le dire. Parce que effectivement, dans le monde du travail, on peut souffrir de faire des fautes et on est pointé du doigt, etc. Et soit on n'a pas pu mettre un mot sur ce dont on souffrait, soit on n'ose pas le dire. Donc je suis heureux. Et voilà, probablement que demain, à la MGN ou ailleurs, il y a des gens qui vont dire, ben moi, voilà, j'ai compris ce que j'avais et puis j'ai le courage de le dire. Donc merci beaucoup pour ce témoignage qui est courageux, parce que c'est pas, j'ai cru comprendre que c'était pas évident quand on était 10 de le dire. François,
sur cette question justement, enfin de la souffrance, mais enfin, surtout une question d'estime de soi de l'enfant. La question, si je reviens sur le point de musique, effectivement, une question de rééducation, mais de manière générale, on fait face aussi à des enfants qui sont confrontés frontalement à des difficultés de lecture, d'écriture. Donc il y a la question aussi d'avoir quelque chose de ludique, oui, sur lequel l'enfant puisse juste, à minima, en fait, la question de la musique, de l'art, c'est un vecteur motivationnel, c'est un vecteur sur lequel on peut s'appuyer pour reprendre goût à l'apprentissage. Donc c'est juste ce que je voulais dire, c'est qu'en soi, il y a bien sûr le côté santé, le côté rééducatif, mais il ne faut pas se focaliser seulement sur des choses où on va essayer, entre guillemets, de forcer l'enfant en fait à une réduction, ça ne marchera pas.
Mais là, ce n'est pas un dispositif médical.
C'est un dispositif éducatif, ouais, à visée thérapeutique. C'est, ouais, ainsi qu'on le définit. Dans le sens où notre vocation, en fait, c'est effectivement de faire du suivi, de la continuité thérapeutique. Mais de manière générale, en fait, on voit ça bien au-delà des troubles 10 et de la dyslexie. Les compétences en fait, qu'on développe aussi en apprenant effectivement ces questions de reproduction rythmique, reproduction musicale, peuvent s'appliquer à beaucoup d'enfants, ouais, de manière générale. Et effectivement.
C'est ce qu'on entend souvent, c'est que les solutions pour les 10, elles sont tout aussi utiles et efficaces pour ceux qui ne le sont pas. Alors, je ne sais pas si c'est qui peut le plus, peut le moins, mais en tout cas, les enseignants, les établissements scolaires qui font appel à ces solutions disent c'est efficace pour les enfants 10, mais c'est aussi bon pour les autres.
Et peut-être que dans les trophées de l'année prochaine, une des choses qu'on reconnaîtra, ça sera au-delà de la dyslexie, la musique. Oui. Je pense que ce qui est très intéressant chez Mila, c'est l'utilisation de la musique sous cet angle-là, comme une sorte de médicament, une sorte de thérapeutique, et qu'au-delà de ça, la musique, elle a un pouvoir, au-delà de la spécialité qu'elle représente, un pouvoir de soigner et un pouvoir d'éduquer. Je crois que hier, sur le podcast, il y avait Handic, et c'est, oui, un peu dans, oui, cet esprit-là. Comment on peut utiliser aussi la musique, alors sous la forme du rap, pour aider les, oui, enfants à apprendre. Et alors, ils ne sont pas forcément dyslexiques, ceux-là, mais ils aiment le rap et ça, oui, leur permet d'apprendre plus vite.
Oui, Handic, qui était aussi lauréat des trophées MGN et qu'on a eu sur le plateau avec apprendre à réviser avec du rap. Voilà, ça aussi, c'est un truc qui peut être utile aussi, peut-être, pour les 10.
Oui, c'est peut-être aussi une façon d'aller identifier chez les enfants des espaces de compétences. Parce que, oui, quand vous avez des difficultés, par exemple, pour lire et pour écrire, vous allez avoir des difficultés pour lire l'énoncé de mathématiques, vous allez avoir des difficultés pour lire l'histoire, pour lire la géo, et finalement, peut-être que vous êtes très bon en maths, mais comme vous butez, oui, sur l'exercice de mathématiques, du coup, vous n'arrivez pas en maths. Et ça donne ce que Daniel Pennac, l'écrivain, dit très bien dans son bouquin « Chagrin d'école ». Il dit « Je suis sorti de l'école, j'avais l'impression que j'étais nul, nul, nul ». C'est-à-dire qu'il n'y a rien de bon là-dedans, il y a tout acheté. Et tout ça, quelquefois, simplement parce qu'il y a une difficulté d'accès à la connaissance bloquée par la question de la lecture. Et que, oui, c'est très important pour nous et pour nos enfants de veiller à identifier les compétences qu'ils peuvent avoir, y compris par des biais différents que celui des biais académiques qu'on connaît, qui sont toujours sur l'écrit. Et que du coup, la question de la musique, par exemple, ça permet aussi d'aller repérer des talents. On voit beaucoup de jeunes qui sont avec des troubles d'apprentissage, qui développent des talents en matière de graphisme, par exemple. Oui. Hein, ils n'arrivent pas avec les mots, et du coup, ils vont faire des schémas, ils vont faire des dessins, ils devront développer des compétences par ce biais-là. C'est pas facile à repérer, c'est pas facile pour les enseignants, c'est pas facile pour les parents, parce que quelquefois, il fait ça un peu comme ça, de façon, oui, clandestine, dans son petit coin, il faut aller repérer ces difficultés-là. Et je rejoins complètement ce que disait tout à l'heure Isabelle, c'est que quand on arrive à l'âge adulte, on a une image de soi très dégradée à cause de toutes ces difficultés qu'on a eues pendant tout son parcours. Oui. Et que effectivement, puis alors c'est la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, et en ce moment, c'est l'occasion d'en parler, c'est difficile de le redire en entreprise. Et on voit des jeunes qui arrivent dans l'emploi et ils se disent « je vais enfin montrer ce que je vais savoir, ce que je sais faire dans mon métier ». Et puis bim, ils se retrouvent confrontés à des difficultés. Et là, ils en prennent encore un coup sur le moral.
Oui. Et François, c'est pas un gadget, Mila, puisque derrière, c'est fondé sur des travaux scientifiques, en neurosciences. Il y a un peu d'intelligence artificielle également.
C'est fondé sur deux piliers. Donc, il y a l'aspect neurosciences, sciences, ouais, cognitives. Donc, on reprend notamment donc, les travaux de Michel Habib, donc vraiment sur le côté plutôt recherche en fait, et pédagogie, si, ouais, vous voulez. La question de l'intelligence artificielle, bon, le mot est un peu à prendre avec des pincettes, oui, comme, oui, c'est, oui, un peu un fourre-tout. Mais si je devais le préciser, c'est plutôt que notre expertise, c'est l'audio. L'audio, c'est toute notre passion, c'est notre expertise technique. Cette question-là, c'est de savoir aussi comment on peut faire en sorte de comprendre l'enfant dans son état global, donc par ses interactions vocales, par ses interactions aussi motrices, et ça, on a quand même plus de travaux et un peu plus d'avancée sur le sujet aujourd'hui. Et donc, du coup, de plus avoir seulement des interactions vraiment simplement tactiles. En fait, disons qu'on a beaucoup aujourd'hui et c'est déjà énormément, mais voilà, des tablettes sur lesquelles on vient toucher de manière tactile. Sauf que c'est quelque chose qui est extrêmement faible d'un point de vue motricité, et ça c'est absolument insuffisant en fait pour pouvoir juger des progressions de l'enfant, pour pouvoir l'accompagner tout simplement. Et donc de ce côté-là, la question musicale, la question de l'interaction vocale notamment, permet d'aller beaucoup plus loin dans la compréhension de l'enfant.
D'accord. Je suis parent d'enfant 10, je veux utiliser Mila demain, c'est possible? Pas encore? Comment ça se passe?
Alors, vous pouvez aller sur mila-learn.com, mila-learn.com. Aujourd'hui, on est en train de sortir, si vous voulez, du monde de la recherche. Donc, on a lancé un programme bêta qui est ouvert aux candidatures, dans le sens où aujourd'hui, on ne peut pas...
C'est bêta pas au sens andouille, hein. C'est bêta,
non.
C'est au sens test. Non, je le dis. Parce que...
Et bien sûr. Bêta au sens, c'est un peu la première version. Ce qu'on demande aujourd'hui, bon, bien sûr, c'est gratuit, c'est mis à disposition des foyers. La question, c'est qu'en fait, on demande tout simplement des retours des parents. Des retours des parents, des associations de parents, des fédérations. L'idée, c'est qu'on veut avoir quelque chose de très utile qui puisse coller au mieux aux besoins des familles. Donc pour ça, effectivement, vous pouvez vous rendre sur notre site internet, nous envoyer un message, décrire un petit peu votre profil. On peut commencer à prendre contact. Et dans quelques mois, effectivement, on lance ce programme-là qui vise à accompagner pendant 3 mois avec ce projet et petit à petit co-construire Mila.
Alors, c'est un enjeu pour les entreprises de tech. C'est quoi le modèle économique derrière? Parce que tout ça, c'est formidable, mais qui va payer?
C'est une vraie question. C'est une vraie question. Aujourd'hui, on est financé par des fondations, principalement. Ouais. On est financé par des fonds à impact et des sociétés de musique. Le modèle économique à terme, pour être très franc, il n'est pas encore trouvé. Effectivement, il y a besoin de se financer pour continuer à se développer. La question d'avoir un prix qui est suffisamment dynamique pour permettre à des personnes favorisées de permettre à des personnes défavorisées, justement, qui n'y ont pas accès, c'est un peu la clé. D'autant plus qu'on se vise... Enfin, on a comme objectif de mettre cet outil à disposition des familles qui, dans une immense majorité des cas, n'ont pas accès aux soins. Et donc, concrètement, si on n'arrive pas à avoir la bonne adéquation, on n'y arrivera jamais. Tout simplement, notre mission aura échoué. Donc aujourd'hui, le modèle n'est pas fixé et c'est vraiment une vraie question qui est sur la table.
Et les trophées MGEN, c'est un petit coup de pouce, là. À la fois une mise en lumière, une reconnaissance du travail fait, puis aussi un coup de pouce financier.
Complètement. C'est bien sûr un coup de pouce financier. Ça nous permet donc de développer les prototypes pour aller plus loin et donc de lancer ce fameux programme dont je parlais tout à l'heure. C'est une mise en lumière dans le sens où il y a ce trio entre la question du parent, du médecin et de l'enseignant. Et la MGN, effectivement, on est vraiment au cœur des trois. La question de l'éducation nationale est absolument fondamentale. Si on n'est pas vraiment en lien proche avec les acteurs de ce milieu, de la même manière, on passe à côté de 80% des enfants.
Isabelle, le rôle de la MGN.
Alors, je pense que dans la tech en général et avec Mila en particulier, on pourrait financer, on finance un petit peu. Mais finalement, ce n'est pas ça que la MGN peut faire de plus utile pour des structures comme Mila. Ce qu'elle peut faire, c'est de parler, de dire qu'elle crédibilise la solution et d'en parler. D'en parler à nos 4 millions de clients, dont 75% des enseignants français, qui sont aussi parents eux-mêmes. C'est d'en parler au ministère, c'est d'en parler aux professionnels de santé qui sont dans nos établissements, parce qu'on est aussi offreurs de soins. Et donc ça, c'est finalement plus utile que entre guillemets, juste financer la solution, parce qu'on lui ouvre un marché et on crédibilise sur son marché.
75% des enseignants français.
À peu près.
Ah, bravo. C'est exemplaire. Non, et c'est
ça fait 70 ans qu'on existe. Ouais.
Donc il y en a plein, le salon, là, autour.
Ah oui, je pense qu'on a beaucoup d'adhérents à MGN dans le salon.
Et est-ce que c'est une solution qui pourrait être aussi utilisée directement par les établissements scolaires?
C'est une question qui est souvent revenue, notamment la question de l'activité en groupe pour les enfants. C'est un point qu'on a vraiment noté à de multiples reprises. Comment justement on permet en fait à des acteurs de venir s'insérer dedans. Aujourd'hui, on n'a pas la réponse de permettre, premièrement, d'avoir des activités vraiment en groupe avec 5-10 enfants. Deuxièmement, de permettre à l'enseignant ou au thérapeute d'avoir une main sur la création des contenus. C'est quelque chose qu'on aimerait vraiment faire à terme, mais ça demande beaucoup de travail et ça sera le cas probablement dans quelques années.
Alors moi, je suis ravi de ce que j'ai entendu parce que vous avez dit, François, on l'a testé avec des personnes. Parce que sur ces outils numériques, nous, on est très attachés à la question de la qualité d'usage. Je vous donne un exemple. Il y a eu, en Midi-Pyrénées, des enfants à qui on avait attribué des ordinateurs parce qu'ils avaient des troubles d'apprentissage. Donc, c'est tout un processus. C'est très long, très compliqué, puis ça coûte cher. On revient 6 mois après, on retrouve ces enfants et on s'aperçoit que les 2/3 des enfants n'utilisent pas l'ordinateur. Pourquoi? Parce qu'ils sont devant dans la classe et la prise, elle est derrière. Et donc, ils ne peuvent pas recharger leur ordinateur. Donc, l'après-midi, ils ne l'utilisent plus. Parce qu'ils ont quand même les bouquins plus l'ordinateur, c'est trop lourd. Parce qu'ils sont seuls dans la classe à avoir un ordinateur et que ça les stigmatise. Parce que l'enseignant, parce que personne n'a été formé pour la prise en main de l'outil. Et donc, on est très attaché, et c'est pour ça que ça peut être intéressant qu'on travaille du coup avec Mila et peut-être avec la MGEN pour aller regarder comment les utilisateurs vont s'approprier le sujet et comment on peut travailler là-dessus. Ouais. Dernière petite chose, j'étais hier à Rennes pour former des agents de la fonction publique territoriale. Oui. Et parmi eux, il y avait des gens des conservatoires municipaux, des écoles de musique, qui se disaient, mais comment on fait avec les gens qui ont des troubles d'apprentissage? Donc moi, je vous fais une proposition en direct.
J'adore.
Ça, c'est le scoop
j'adore,
du jour. C'est
j'adore.
Le scoop. C'est, allons voir des professionnels de l'éducation musicale, peut-être dans les conservatoires, peut-être à l'éducation nationale avec vous, et puis on va aller voir votre application et on va aller la tester in situ avec des profs de musique, soit dans les écoles de musique, soit à l'éducation nationale, pour aller voir comment ça marche sur le terrain. Puis après, ça vous nourrira, vous, pour bien répondre aux besoins à la fois des enseignants et à la fois des élèves.
Alors, c'est une super idée. Nous, parmi nos clients, je parlais des enseignants d'éducation nationale, mais on a aussi plusieurs MJC. On couvre les enseignants qui sont dans ces structures-là. Et on a créé une application, alors là, pour les enseignants, qui s'appelle Vocalise, qui est gratuite, vous pouvez la télécharger, qui permet aux enseignants de protéger leur voix, de faire une carte vocale de leur voix et de protéger leur voix avec des exercices. Parce que l'outil de travail de l'enseignant, c'est sa voix. Quand il est aphone, c'est fini la classe, il ne peut pas la faire. Donc, c'est un outil de prévention à destination des enseignants. Et ce dont on s'est aperçu, c'est qu'il y avait des enseignants qui, dans les écoles de musique, utilisaient cet outil Vocalise, non pas pour leur propre voix, mais pour la voix des enfants qui chantaient avec eux, pour leur faire leur carte vocale, etc. Donc je suis convaincue que, de manière pour bien apprendre, il faut bien voir, donc il faut des bonnes lunettes, et il faut bien entendre. Et donc, si les enfants ont des problèmes d'audition, il faut les appareiller. Et la voix, c'est le connecteur entre l'ensemble des autres sens. Donc, c'est une bonne idée.
Et la FF10, parce qu'on n'a peut-être pas présenté l'association, c'est combien de volontaires, de bénévoles?
C'est 8000 adhérents partout en France. Donc c'est une fédération. Donc il y a des associations partout sur le terrain qui accompagnent les familles. Alors il y en a du côté de chez Michel Labib à Marseille, mais il y en a partout en France qui accompagnent les familles et les enfants au quotidien. Et puis nous, la fédération, on est l'organisation qui défend les intérêts des associations et des parents auprès des pouvoirs publics,
des
essentiellement. Et
puis des passionnés, des gens très engagés, voilà, qui souvent ont été confrontés directement au trouble 10, soit personnellement, soit au travers des enfants, j'imagine.
Oui, on est essentiellement une fédération d'associations de parents. Et de plus en plus, on a des adultes qui viennent nous rejoindre parce qu'on veut aussi travailler sur la question, on a parlé des enfants, mais des adultes, qui est un vrai sujet, et sur lequel on associe des adultes qui ont ces troubles 10 dans notre réflexion et dans nos revendications. Ouais.
Il y a une petite idée de la nuit des 10. Je ne vais pas en dire plus
parce
que c'est un projet, mais c'est un projet auquel la Tech France sera ravie aussi de s'associer parce qu'il y a d'autres acteurs avec Mila, avec Mobidis, qui développent aussi des solutions pour les enfants à besoins éducatifs particuliers. Il y a les 10, il y a aussi les déficients visuels. Voilà, il y a des tas de solutions EdTech qui viennent au secours.
Et là-dessus, il y a un élément important, c'est que nous, on a beaucoup bénéficié des solutions qui avaient été mises en place pour les personnes déficientes visuelles.
Oui.
Et vous voyez ce qu'on dit, nous, sur les 10, pour ceux qui ont des difficultés scolaires, pour tous les élèves. Et ben nous, les familles d'enfants avec des troubles d'apprentissage, on a bénéficié de ce qui avait été pensé d'abord pour les personnes aveugles et déficientes visuelles. Et du coup, on profite aujourd'hui de tout ce qui a été développé pour les aveugles, tout ce qui facilite l'accès à la lecture, tout ce qui est synthèse vocale, tout ce qui est grossissement, surlignage, tout un tas de choses qui avaient été pensées, prévues par le monde de la déficience visuelle. Aujourd'hui, ça bénéficie aux 10. Et c'est pour ça qu'on parle de design universel, c'est-à-dire de réfléchir en termes d'accessibilité sur ces outils numériques, non pas après coup, une fois qu'on a fait le truc, et puis on se dit, ah merde, on a oublié tous ceux qui avaient des difficultés, alors il faut maintenant mettre le plugin qui va venir s'ajouter par-dessus, mais de penser dès le départ, si on pense dès le départ aux aveugles, finalement ça va servir à tout le monde. Un PDF accessible, vous voyez, le PDF, c'est utile pour tout le monde, parce que dans le PDF accessible, vous pouvez copier-coller le texte, ce que vous ne pouvez pas faire si le PDF il n'est pas accessible. Ouais. Ouais. Mais c'est pour les aveugles qu'on a fait ça d'abord. Donc il y a plein de trucs comme ça qui servent à tout le monde.
Voilà, la différence enrichit finalement tout le monde. Il va falloir rendre l'antenne, ce qui me désole, parce que c'est le dernier, parce que j'ai envie de continuer, parce que tout ça est passionnant, mais j'ai bien compris qu'il y aura des discussions qui vont se prolonger après entre vous, avec tout le monde. Un mot peut-être François, un souhait là, pour Mila, un appel au don, c'est possible aussi.
Un souhait d'être dans la construction de l'outil, effectivement. Donc je reviens sur ce programme qu'on va lancer dans quelques mois. Encore une fois, si on n'est pas directement avec les familles, avec les associations, notre mission est un peu à côté de la plaque. Voilà. N'hésitez pas à venir sur mila-learn.com pour partager vos expériences, pour partager un peu vos retours, votre aide, justement pour co-construire cet outil. Et on sera ravis justement de pouvoir collaborer ensemble dans les années à venir.
La FF10, elle a un site internet aussi ?
Bien sûr, elle a un site internet, un site où vous tapez FF10 et vous allez le trouver, FF10.com, c'est pas compliqué. Mais je crois que vous avez une idée sur la nuit des 10, parce que nous, on avait créé la journée nationale des 10, le 10 octobre.
C'est avec votre présidente que j'en ai parlé.
Ah, voilà.
Attendez, j'ai des liens.
Vous ne me dites pas tout, Rémi.
Bien sûr que non, on a le droit d'avoir des secrets. Isabelle, le mot de la fin revient à notre partenaire en plus, MGEN.
Moi, peut-être, si c'est la fin de la fin.
J'irais... Ah non, mais on peut prolonger. On a le droit. Hein. C'est le dernier. Là, il y a du monde.
Je vous conseillerais deux choses à tous. Un, d'aller regarder ce qui se fait, même si c'est pas forcément beaucoup plus émergent dans la headtech dans d'autres pays. Oui. Parce qu'il y a plein de choses aussi qui peuvent nous inspirer. Et c'est dangereux toujours de se mettre dans le contexte et dans les contraintes qu'on a dans notre pays. Et deux, aussi se dire que si on réfléchit beaucoup sur les modèles économiques de la headtech pour les enfants, le modèle économique de la headtech, il est à trouver, je pense, à la conjonction entre les enfants et les grandes personnes, entre la formation en entreprise. Nous, on le vit sur l'autre partie de notre activité qui sont des contrats collectifs vers les DRH. Donc, à la conjonction entre un modèle économique pour les enfants, plus difficile à trouver, et un modèle économique vis-à-vis des entreprises, parce que l'entreprise est aussi un territoire tech.
Ben voilà, c'est sur ces paroles très sages que je vais clôturer cette émission avec beaucoup d'émotion. Voilà, ça a été trois jours qu'on a passé tous ensemble au cœur du réacteur de l'innovation éducative là, pour donner la parole à toutes celles et tous ceux qui dessinent un nouveau paysage du numérique éducatif. Il y a eu 17 talks en direct, plus d'une trentaine d'invités. Vous les retrouverez très vite sur les plateformes de podcast avec le podcast EdTech France. Il y a déjà des numéros en ligne, des précédentes séries que vous pouvez écouter. On a eu des entrepreneurs, des chercheurs, des professeurs, des investisseurs, des associations, des institutionnels. Ils ont partagé avec nous leurs histoires, leurs innovations, leur vision du monde, leurs espoirs, leurs craintes également. C'était vraiment passionnant. J'espère qu'on aura d'autres occasions de continuer d'échanger sur tous ces sujets. Un grand merci à tous nos partenaires, évidemment la Banque des Territoires qui nous a fait confiance pour l'animation de ce stand. Un petit coucou particulier à Nicolas Turca et Rose Lemardelais. Au mois de juillet l'année dernière, au mois de juillet avant l'été, il y a très peu de temps, on a eu cette discussion, un déjeuner. Tiens, et si on faisait une web radio? Et voilà, et ça s'est passé en un temps record. Un grand merci évidemment à la MGEN, à Isabelle Hébert qui est là, à Marie Baron qui est là, à Clémence qui est là, parce que ça a été un partenariat qui continue et la MGEN était parmi, encore une fois, les premiers à nous faire confiance à EdTech France, et on est très heureux de pouvoir continuer cette route. Un grand merci aussi à la MAIF avec notamment Fabrice Badreau qui était présent hier sur un talk, et puis à ses équipes qui étaient là encore aujourd'hui, qui ont relayé aussi toute cette communication. Et puis évidemment un très grand merci à toute l'équipe du podcast EdTech France. Ils étaient nombreux là, ils sont là avec les polos, il y a Julia, Marina, Gaëtan, Yves, Paul, Victor qui ont tous participé à la production de ce dispositif. Natacha le fauconnier, elle est quelque part là avec un casque. C'est grâce à Natacha que j'ai l'air intelligent, parce que c'est elle qui a préparé toutes ces interviews, qui a passé du temps avec chacun d'entre vous. Moi j'arrive, je lis comme ça là, voilà. Bon, alors j'ai la chance d'avoir une voix de radio, alors ça passe, mais sans elle, j'avoue que j'aurais l'air bête. Donc merci beaucoup Natacha, qui est journaliste. Et puis évidemment Maxime Macton. Alors Maxime, il a exhumé l'autre soir le premier texto qu'on s'est envoyé il y a un an en disant « Et si on faisait un podcast ?» Voilà. Et on a fait un podcast et on fait une web radio. On va faire un long métrage. Hollywood a racheté les droits de ce... Non, ça, c'est je fantasme. Mais voilà, c'est l'agence Matoons, Maxime et tout son orchestre. Merci à tous, les gars. Ça a été et les filles, ça a été un moment extraordinaire. Et j'ai hâte de tout réécouter maintenant sur les plateformes de podcast. Merci au public qui des applaudissements nourris. On en rajoutera en post-prod pour que ça ait l'air d'être un peu plus. Non, mais il y a eu du monde tout le temps sur le salon. Donc c'était vraiment très chouette. Je suis, comme le chantait Aznavour, épuisé mais ravi. Et on va prolonger maintenant ces échanges autour peut-être d'une petite coupe de champagne ou d'un truc comme ça. Voilà, c'est aussi ça la EdTech, c'est aussi ça la convivialité. Et on est tous engagés dans le même but, c'est faire en sorte de de rendre l'éducation plus adaptée peut-être à un monde en transformation. Merci à tous. J'ai du mal à lâcher l'antenne. C'est horrible, hein. C'est une espèce de syndrome des mecs qui n'arrivent jamais, qui annoncent que ça s'arrête puis qui reviennent. Non, allez, cette fois-ci, j'arrête. Merci beaucoup. À bientôt.
Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, abonnez-vous au podcast EdTech France, disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter, 5 étoiles, et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux. Merci à Maxime Maton pour la production de ce podcast et à notre journaliste Natacha Lefauconnier pour la préparation des interviews.